Une après-midi ensemble en deux temps. On va déjà écouter les médecins qui vont faire un point sur le diagnostic précoce, mais aussi l'actualité de la recherche et puis le burn-out des aidants. Et puis ensuite, nous retrouverons des structures comme Domus Vie qui va venir échanger avec nous sur cette notion de répit pour les aidants. On va aussi recueillir des témoignages, que ce soit de personnes qui se sont engagées à travers des actions ou qui sont bénévoles à la Fondation pour la recherche Alzheimer. Voilà pour le programme. Je vous propose tout de suite de céder la parole à Thierry Voisin, neurogériatre au CHU de Toulouse, qui va nous parler du diagnostic précoce.
Bonjour à tous. Alors on m'a demandé d'évoquer aujourd'hui avec vous la question du diagnostic précoce. Donc on va le voir en différentes étapes. La question principale sera qu'est-ce que précoce ? Vous allez voir ce qu'on peut diagnostiquer de façon très précoce, mais après, et ce sera peut-être dans la discussion, à quoi ça sert ? Alors tout d'abord, des choses que vous savez probablement déjà, c'est comprendre la maladie. La maladie d'Alzheimer, mais c'est vrai également pour toutes les autres maladies neurodégénératives, sont donc des maladies dégénératives qui vont se solder par une perte de cellules cérébrales, donc une atrophie cérébrale. Et c'est cette atrophie cérébrale qui va entraîner, qui va être responsable d'une perte de fonction, donc de troubles, de difficultés. Et pour ces maladies-là, on les définit notamment sur les difficultés des capacités intellectuelles, donc des capacités dites cognitives. Cette neurodégénérescence qui résulte donc à cette atrophie cérébrale, est liée de façon principale, en tout cas est marquée par deux lésions principales. Alors avant, peut-être Julien Delrieux en parlera un peu tout à l'heure, mais il y a d'autres lésions qui vont aboutir pour le moment à celle-ci, mais par définition, on retient ces deux lésions. C'est tout d'abord des plaques amyloïdes, donc ce sont des agrégats de pépites amyloïdes, qui sont des dépôts qu'on dit extracellulaires, et puis une dégénérescence liée à une autre protéine, qui est la protéine Tau. Donc, c'est la présence de ces deux lésions qui va aboutir à la neurodégénérescence, à l'atrophie cérébrale, et donc à l'altération des capacités intellectuelles. Donc, on a ces deux lésions, plaque amyloïde, dégénérescence liée à la protéine Tau, donc ces deux protéines, et vous verrez l'importance d'en parler par rapport aux thérapeutiques. Et puis on a une évolution dans le temps qui va se faire de ces deux types de protéines et qui vont expliquer, dans la forme classique de la maladie d'Alzheimer, un début avec des problèmes de mémoire, puis d'autres difficultés intellectuelles, un retentissement sur les capacités de l'individu à gérer son autonomie. Donc on a ces lésions qui évoluent dans le temps et vous imaginez que du coup on va essayer d'en faire le diagnostic. Alors du coup, comment on va faire ce diagnostic ? Tout d'abord, je vais revenir sur des définitions. Pourquoi ? Parce que c'est la terminologie actuelle. Aujourd'hui, on ne parle plus de démence, de syndrome démentiel. On va parler de troubles neurocognitifs et on parle de maladies. Maladies qui vont expliquer, qui vont entraîner des troubles neurocognitifs. Les troubles neurocognitifs, c'est quoi ? Ce sont une réduction de ses capacités cognitives dans un ou plusieurs domaines des capacités intellectuelles, que ce soit la mémoire, le langage, le geste, le jugement, le raisonnement, etc. Donc, les troubles neurocognitifs, ce sont des troubles des capacités intellectuelles acquises. Et ensuite, on va avoir, une gradation en termes de sévérité. On va parler de troubles neurocognitifs mineurs, lorsque les difficultés sont présentes, mais pas suffisamment importantes ou pas suffisamment sévères pour retentir sur les capacités de l'individu à retentir sur, à gérer son autonomie, alors autonomie complexe, hein, conduire sa voiture, gérer son budget, les transports, etc., le quotidien. Alors que le trouble neurocognitif majeur, lui, ce sont des difficultés intellectuelles qui vont être suffisamment importantes pour retentir justement sur ses capacités. D'accord ? Donc déjà, on voit qu'on pourrait évoquer un diagnostic précoce déjà avant que ces difficultés soient suffisamment importantes pour retentir sur l'autonomie de l'individu. Donc ce trouble neurocognitif dit majeur, c'est ce qu'on appelait avant la démence ou le syndrome démentiel, en tout cas sur le plan médical. Donc comment on s'y prend du coup sur le plan du diagnostic ? Tout d'abord, il faut qu'il y ait des difficultés intellectuelles. C'est-à-dire qu'il faut définir ce trouble neurocognitif, qu'il soit mineur ou majeur. Donc tout ça passe par une évaluation des capacités intellectuelles, des capacités cognitives, et plus ce diagnostic est précoce, plus on va faire appel à des tests compliqués, donc à un bilan qu'on dit neuropsychologique. Et donc on va évaluer les capacités de l'individu, et du coup on va essayer de faire un véritable état des lieux des performances intellectuelles de l'individu. Et ces performances intellectuelles, cet état des lieux est bien sûr comparé à l'âge de l'individu, à son sexe, à son niveau socioculturel, donc aux capacités qui sont attendues. Donc on fait d'abord un bilan de ces performances. Ensuite, on va faire un état des lieux plutôt anatomique. C'est-à-dire qu'on va poser la question à un examen, et c'est une IRM cérébrale, on va poser à cet examen la question « Existe-t-il de l'atrophie cérébrale ?» qui est donc le résultat de la mort neuronale, donc de ces lésions. Et donc, on va voir en effet sur cet IRM de l'atrophie. Et donc, par exemple, vous voyez ici, et on va notamment regarder certaines régions comme ces fameux hippocampes qui servent à la mise en mémoire de nouveaux souvenirs et qui sont touchés dans la maladie d'Alzheimer classique ou typique. Et on peut voir une atrophie progressive de ces régions qui vont du coup entraîner des difficultés de mémoire. Donc ça, on peut le voir, en effet, à l'IRM. Mais l'IRM va également faire ce qu'on va apporter, en tout cas, des arguments pour ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est qu'on va voir s'il y a d'autres choses, s'il y a des lésions vasculaires cérébrales, par exemple, ou d'autres explications à ces troubles cognitifs. Donc, état des lieux sur le plan intellectuel, les tests, état des lieux sur le plan anatomique, l'IRM. Et ça, c'est la base. Ensuite, on peut complexifier ce diagnostic, c'est-à-dire que quand il y a des situations un peu atypiques ou qui ne correspondent pas à ce que l'on attendrait chez un individu, à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle de l'imagerie fonctionnelle. Donc là, ce n'est pas de l'anatomie, ce n'est pas de la structure, on va voir, entre guillemets, comment fonctionne le cerveau. Et notamment, il y a un des examens, alors il y en a deux, je vais en parler surtout d'un parce qu'il est plus simple à expliquer. La cellule cérébrale, pour fonctionner, il faut deux choses, il faut du sucre, de l'oxygène. Donc on met le patient ou le sujet à jeun, et on va lui injecter du sucre marqué, on va voir comment les cellules cérébrales consomment ce sucre. Si la cellule est malade, même avant d'être morte, donc même avant l'atrophie, on peut voir du coup un dysfonctionnement de ces cellules. Et vous voyez par exemple, alors plus les couleurs, vous ne voyez pas très bien par rapport à la diapositive sur la projection, mais plus les couleurs sont dites froides, moins le neurone marche ou moins le cerveau marche. Donc là, c'est de représentation cérébrale, et vous voyez ici, on a un patient qui a un trouble neurocognitif mineur. Alors on peut deviner des petites choses ici sur les régions qu'on dit temporales, et notamment sur les régions où il va y avoir des fonctions mnésiques. Et plus la maladie évolue, là, un stade léger, là, un stade plus sévère de la maladie, on voit que, par exemple, ici, les régions postérieures marchent moins. Donc, c'est une autre question qu'on pose à l'examen, et cet examen, en théorie, va avoir des choses un peu avant l'IRM, ou alors va permettre d'interpréter différemment l'IRM, parce que parfois, l'atrophie, on ne sait pas trop si c'est normal ou pas normal dans certaines conditions. Donc cet examen est plutôt réservé à des formes, je vais dire, d'atypie. Donc c'est de la scintigraphie cérébrale. Et ensuite, on a aussi d'autres examens, notamment on va là, cette fois-ci, marquer les lésions de la maladie. Donc on a parlé des pépites d'amyloïdes, on a parlé de cette protéine tau. Et donc on peut, en effet, sur une ponction lombaire, analyser le liquide qu'on dit céphalorachidien, où on va pouvoir doser ces protéines amyloïdes et des protéines tau et une autre protéine, qui est la protéine tau-phosphorylée, qui va être la signature de la maladie d'Alzheimer. D'accord ? Et ensuite, s'il y a une contre-indication à cette ponction lombaire, parce qu'il peut y en avoir, à ce moment-là, on peut faire aussi une imagerie qu'on dit fonctionnelle, donc le même examen de tout à l'heure, mais là, ce n'est pas du sucre qu'on va injecter, c'est un marqueur des plaques amyloïdes, et on peut là, de nouveau, tracer les dépôts amyloïdes que l'on a dans cette maladie. Tout à l'heure, on avait fait un bilan des performances intellectuelles, c'est-à-dire qu'on avait fait un état des lieux du fonctionnement, l'IRM, un état des lieux anatomique, et là, on peut voir mais quelle est la cause des difficultés visibles sur le plan intellectuel ou sur le plan de l'IRM. Alors, cet examen n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on fait un examen, on pose une question à cet examen. Donc, vous aurez compris, on commence par des difficultés intellectuelles et il n'y a pas aujourd'hui, en termes de définition, de maladie d'Alzheimer sans symptômes. D'accord ? Il existe, et on va le voir juste après, bien sûr, des maladies d'Alzheimer dites asymptomatiques, mais ça, je vais dire, c'est pour la recherche. Aujourd'hui, le diagnostic précoce entend des symptômes. Et à partir des symptômes, on déroule une histoire diagnostique. Donc, on fait une IRM, et éventuellement, si on en a besoin, le praticien, le médecin, va recourir à d'autres explorations pour affiner son diagnostic et éventuellement, du coup, rechercher la signature protéique de la maladie. Alors, du coup, qu'appelle-t-on précoce dans tout ça ? Alors, si j'image un peu les pathologies dégénératives, il faut un peu les concevoir comme un robinet qui fuit sous un récipient. La maladie, c'est le robinet qui fuit. Et que la première goutte qui va se déposer dans le récipient, c'est 15-20 ans avant que ça déborde. Et là, je vais faire le diagnostic de maladie avérée. Là, éventuellement, de troubles neurocognitifs mineurs. Mais la maladie existe depuis bien longtemps. Les marqueurs de la maladie, si j'exagère le trait, donc la ponction lombaire, les protéines amyloïdes, la protéine tau, ce sont des marqueurs du robinet qui fuit. Les marqueurs qui sont les marqueurs cognitifs, donc les tests neuropsychologiques, l'IRM, ce sont des marqueurs plutôt de où on en est du remplissage du récipient, est-ce que ça déborde ou est-ce que ça va bientôt déborder. D'accord ? Et donc, si on l'image, il est clair qu'on a en effet une maladie d'Alzheimer asymptomatique. On a du coup des sujets qui vont présenter les anomalies de protéines, donc ils ont bien la maladie, mais ils n'ont pas encore de symptômes. Et ça, plus de 10 ans, 15 ans. Et avant ces protéines amyloïdes et tau, il y a d'autres protéines qui vont aussi expliquer cela. Ensuite, on va avoir donc cette maladie d'Alzheimer au stade de troubles mineurs, donc troubles neurocognitifs mineurs. Et donc là, on peut déjà voir, bien sûr, des modifications structurelles à l'IRM, des modifications sur ces scintigraphies cérébrales, donc sur le plan fonctionnel. On peut avoir, bien sûr, déjà des petits troubles de la mémoire, mais le sujet reste autonome. Et puis après, ben là, ça déborde, c'est-à-dire que je deviens un trouble neurocognitif majeur, donc j'ai un retentissement de ces difficultés dans mes activités quotidiennes. Alors, l'élément important, parce que quand on parle de diagnostic précoce, en effet, on peut faire un diagnostic là, au niveau des troubles neurocognitifs mineurs. Mais lorsque le récipient déborde, lorsqu'on a déjà un trouble neurocognitif majeur, à un stade léger, il faut bien concevoir qu'un tiers seulement des sujets sont détectés. C'est-à-dire que, avant, je dirais même de parler de diagnostic précoce, l'objectif, c'est surtout de repérer les individus qui ont déjà des difficultés et d'arrêter, malheureusement, comme c'est le cas souvent, de trouver des excuses à « il y a une problématique de mémoire, c'est normal, c'est l'âge, c'est normal, il y a un deuil récent, c'est normal, il y a eu des changements dans sa vie tous les jours ». Donc, ce sont des maladies encore, personne n'a envie d'avoir cette maladie, personne n'a envie de croire que son proche a cette maladie, donc il faut aussi y penser. Et surtout, y penser pourquoi ? Parce que, et c'est l'un de mes derniers messages, c'est qu'il faut savoir écouter la plainte de mémoire et pas l'excuser. Pourquoi ? C'est tout d'abord parce que je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la performance cognitive, la performance amnésique. D'accord ? Votre performance, comme la mienne, elle dépend de quoi ? Elle dépend d'abord de qui l'on est. Il y a des gens bons en maths, bons en français, il y a des étourdis de nature, il y a des gens qui peuvent monter des meubles d'IKEA avec notice, d'autres sans notice, donc avec notice, ils n'y arrivent même pas. Donc on est tous différents. Donc ça va bien sûr impacter sur ma performance intellectuelle. Bien sûr, lorsqu'on a une plainte amnésique, lorsqu'on a des difficultés de mémoire, on va se poser la question, est-ce qu'il y a une maladie neurologique ? Est-ce qu'il y a une maladie d'Alzheimer ? Est-ce qu'il y a une maladie apparentée à celle-ci ? Est-ce qu'il y a autre chose qui se passe au niveau de mon organe cerveau ? Ensuite, il y a bien sûr d'autres facteurs environnementaux, la saison, ou d'autres choses, le contexte social, la stimulation. Mais surtout, il y a plein de cofacteurs ou de facteurs de performance. L'âge, bien sûr, mais celui-ci, on n'y pourra pas grand-chose, il est très hétérogène d'un individu à l'autre, mais il y a la qualité du sommeil, l'anxiété, le moral, les autres problèmes de santé, la vue, l'audition, les médicaments, etc. Donc il y a énormément de facteurs qui vont impacter sur ma performance intellectuelle et sur la vôtre et sur celle des patients. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que face à une plainte amnésique, l'idée, ce n'est pas de dire toujours est-ce qu'il y a une maladie neurologique ? Bien sûr, il faut se poser cette question, mais c'est aussi rechercher les facteurs de performance sur lesquels on pourra éventuellement agir, qu'on ait ou pas une maladie neurologique. Et ça, c'est probablement le plus important aujourd'hui, en plus éventuellement des thérapeutiques médicamenteuses. Et donc pourquoi du coup plaider pour un diagnostic précoce ? Mais tout d'abord, c'est que tout n'est pas maladie d'Alzheimer, tout n'est pas maladie neurodégénérative. Et donc, j'ai une plainte, je vais consulter. À ce moment-là, on va éventuellement faire un diagnostic d'autre chose. Et que peut-être je ne vais pas aller consulter parce que j'ai peur de cette maladie. Mais peut-être que ce n'est pas cette maladie et qu'il y a des choses à faire. Et puis, si il y a cette maladie ou une maladie cousine, il y a des choses à faire aussi. C'est aussi le diagnostic le plus précoce possible, et pour respecter aussi le droit de savoir ce qui m'arrive, pour être aussi acteur de soins. C'est également inscrire l'individu et l'entourage dans une démarche d'accompagnement et de prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est quoi ? C'est agir aussi sur des leviers qui vont faire que la maladie s'aggravera peut-être moins vite. Ensuite, c'est repérer et prévenir les comportements à risque, puisque si j'ai des difficultés sur le plan de mes performances intellectuelles, je peux faire des erreurs. Et ces erreurs peuvent avoir des conséquences, et donc il faut voir comment on peut limiter certains de ces phénomènes, aider l'entourage, vous le savez, à comprendre, à anticiper les changements liés à la maladie, apaiser les éventuelles tensions familiales, essayer de préserver au maximum la qualité de vie et essayer d'anticiper tout ce qui peut survenir. Et donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en termes de diagnostic précoce et que je dirais, si j'ai une chose à dire, c'est il faut écouter sa plainte, ne pas la banaliser. Derrière une plainte, il n'y a pas toujours une maladie neurologique, il y a aussi d'autres choses. Et c'est en jouant aussi sur ces facteurs de performance qu'on peut aller mieux. Et parfois, parce que je me plains, parce que j'ai un ascendant qui a ce type de pathologie, eh bien aussi se faire rassurer, c'est une bonne chose. Je vous remercie.
Merci beaucoup.